Hypersensible. Édouard dormit plus que de coutume. Il se réveilla avec le cerveau pelotonné comme un enfant coupable et une barre douloureuse en travers du front. Ce sentiment de revenir de loin l'inquiéta avant de lui laisser un petit goût de liberté. Il s'était affranchi de la réalité, ce qui pour lui n'était pas un exercice facile. Son attention permanente aux autres et à l'environnement lui interdisait ce genre de coupure mentale, et une fatigue nerveuse semblait vivre en lui comme un ver solitaire, le vidant de sa substance. Englué dans ce réveil brumeux, il regretta de devoir en passer par une bonne cuite pour obliger ses neurones à suspendre leur activité. Il jouissait cependant d'une gaieté simple, et en profita encore une dizaine de minutes. Son corps et sa tête retrouvèrent un semblant d'harmonie sous une douche brûlante. Ainsi serait-il présentable aux yeux de ceux qui l'avaient raccompagné jusqu'à son lit. Sa fierté mise à l'épreuve la veille retrouverait peut-être quelques lettres de noblesse, même s'il craignait de découvrir une vérité embarrassante. Il entra dans la pièce, les épaules fatiguées et le regard fuyant face à Gauvain. Ce dernier le salua et lui fit signe, poing serré en rotation devant le nez, puis pouce levé et rire sincère, qu'il en tenait une bonne couche la veille, avant de sortir, sa sangle sous le bras. Il ne restait que Gaëlle à table, discrète et complice.
Qui d'autre m'a vu à part ton fils?
Moi. Et Raymond, cela va de soi.
Je ressemblais à quoi?
À un homme heureux.
Vraiment?
Oui, vraiment. Tu devais penser à quelque chose ou quelqu'un, ou bien ne penser à rien, le visage détendu et joyeux.
J'ai fait des choses compromettantes?
Je t'en ai empêché, le rassura Gaëlle.
Avec toi?
Je t'enlevais ton pantalon. Ton cerveau noyé a dû se méprendre sur la destination du geste.
Excuse-moi.
Il n'y a aucun mal. Tout le monde s'est fait avoir par la goutte de Raymond. Moi la première.
Tout penaud, Édouard cherchait à changer le cours de la conversation. Si un morceau de sa soirée avait disparu dans des limbes éthyliques où il valait mieux le laisser, il se remémora la clairière, la sangle et surtout la conversation avec Denis pour lui annoncer sa décision. Il s'était laissé glisser dans l'enivrement pour étourdir son cerveau et sombrer dans un sommeil profond. Comme certains ont l'alcool triste, ce matin-là, il avait la culpabilité sereine, encore tapis sous quelques buissons de lâcheté. Cependant, la certitude dominait et l'autorisa à se dévoiler. Il l'annonça à Gaëlle.
« Tu te sens soulagé ?»«
Je ne sais pas.
Oui, peut-être. En équilibre instable. Tout est à réfléchir, à imaginer.
Le lui annoncer, redémarrer quelque part. » Pensez à la suite.
Tu peux rester ici le temps nécessaire. Tu ne nous déranges pas. Et Gauvain t'apprécie.
Tout est allé très vite.
Inutile de tergiverser des mois quand la réponse est là, non?
Adèle entra pour chercher une pomme et un morceau de pain. Elle leur annonça qu'elle allait jusqu'à Pimpon à cheval pour une course et qu'elle y resterait la journée. Demanda à Gaëlle si elle devait lui ramener quelque chose. Avant de quitter la pièce, elle regarda Édouard quelques instants et s'assura, amusée, qu'il allait bien. Elle n'attendit pas la réponse. La porte se refermait déjà sur ses longs cheveux noirs.
« Les effets de la cuite se voient-on ?»
Gauvain a dû lui dire, tu penses bien.
« Raymond m'a parlé de Suzanne.
Je sais ce qu'il t'a dit.
Est-ce le cas ?»«
Oui, je crois. »
Je n'ai pas la colère de Raymond, je ne me sens pas menacé.
Et toi? Tu te sens floué?
Je le prends comme un mal pour un bien.
Alors n'en parlons plus.
Que fais-tu aujourd'hui?
J'ai besoin de marcher.
Longtemps.
Gaëlle lui proposa de le déposer de l'autre côté de la forêt, dans la vallée de l'Af, en lui fournissant une carte pour qu'il puisse rentrer à pied. Elle précisa qu'il ne fallait pas trop tarder, la nuit tomberait vite sur cette bonne quinzaine de kilomètres à parcourir. Pendant qu'il préparait son sac à dos, elle lui confectionna un pique-nique complet. Après 20 minutes de voiture, elle le déposa à l'endroit évoqué, en le mettant en garde de bien rester sur le sentier. Édouard constata par lui-même les injonctions précises que des panneaux fixés aux arbres tous les 50 mètres lui rappelaient sans relâche. Interdiction absolue de pénétrer dans la zone de forêt derrière cette limite. Risque de mort. L'école militaire de Saint-Cyr Coëtquidan formait là les officiers français de l'armée de terre, et de l'autre côté de cette barrière virtuelle s'étendait sur plus de 5000 hectares leur terrain d'entraînement. Il était étrange de marcher au rythme des tirs de mitraillettes et d'obus, et d'aucuns n'espéraient que la zone de sécurité fût assez vaste pour éviter une balle perdue. 13 juillet 1986. Élise est partie en même temps que les résultats du bac sont arrivés. Voilà une semaine. Et dans une autre semaine, elle s'envolera pour le Sénégal où son père est affecté sur demande personnelle. C'est l'armée qui nous sépare. Par la voix de son père. Par la distance. Nous serons deux continents différents. Alors qu'il nous semblait constituer ensemble le même roc, la même montagne, le même océan. Élise aimait me poser des questions de si j'étais. Et si tu étais un animal, et si tu étais une plante, et si tu étais une émotion. À chacun de mes choix, elle répondait « moi je serais » et s'imaginait en part complémentaire de ce que j'avais évoqué. Un chien ? Moi je serais une puce. Un chêne ? Moi je serais une truffe. Elle riait. La Norvège ? Je serais la Suède. Un violon ? L'archer. L'amour ? L'amour en retour. Et nous nous embrassions, et nous nous caressions, et nous nous promettions un avenir infini, un doux mélange de nous et des rêves à réaliser. Elle ne pouvait pas en vouloir à son père. Si elle détestait la chose militaire, elle aimait quand même son père. Cruelle ambivalence qui opposait une valeur à un sentiment. Depuis une semaine, je déteste les militaires parce que je déteste son père. L'amalgame est inévitable, et à ce moment-là, je n'imagine même pas revenir un jour sur ce jugement tant il me ronge et me détruit. Tout le long du sentier, les pas rythmés par les tirs, Édouard réalisait le cœur marqué au fer rouge par le sourire satisfait du père d'Élise qui avait gâché 2 vies, qu'il l'avait toujours détesté. Pour autant, la maturité lui avait enseigné que toute armée était nécessaire et il avait tempéré son jugement concernant les militaires. Il s'en voulait de n'avoir cherché à aucun moment à retrouver Élise, même des années après. Il se haïssait d'avoir fait preuve de tant de défaitisme. Si seulement il s'y était attelé, il l'aurait peut-être retrouvé plus tôt. Ils auraient pu poursuivre ce que ce salaud de père avait décidé de casser. S'éloignant des bruits d'obus et de fusils, il retrouva progressivement la douceur d'une forêt magnanime qui l'accueillait en son sein comme une femme généreuse. Bien lui prit d'avoir glissé dans son sac à dos une lampe frontale. Après s'être trompé plusieurs fois de piste et de chemin, il arriva à la fontaine de Barenton, non loin du hameau de Douchemin, dans une nuit noire qu'aucune lumière ne pouvait contredire. Il s'y arrêta un moment. Il connaissait le parcours pour rejoindre la maison et ne risquait plus de se perdre. Cette fontaine singulière offrait aux visiteurs patients un phénomène étrange. Par intermittence, apparaissait un minuscule bouillonnement, malgré la fraîcheur de l'eau, donnant lieu à diverses croyances. D'aucuns lui prêtaient la vertu de guérir la folie, d'autres d'annoncer une rencontre amoureuse à celui qui en était témoin. Édouard attendit. La frontale braquée sur la surface noire de l'eau calme, pris dans ses folles pensées. Il avait pu, durant cette journée solitaire en forêt, digérer sa décision. La tamiser au rythme de ses pas réguliers et rapides, laissant s'échapper à travers le grillage de ses émotions des poussières d'idées noires pour ne garder en lui que les morceaux essentiels et colorés. Ne restait, au final, qu'Élise, son visage devant les yeux. Il aperçut une dizaine de bulles éclore à la surface. La tradition voulait qu'un vœu soit formulé. Les arbres, alentour, furent témoins du sien. Gaëlle lisait dans le grand canapé moelleux du salon. Emmitouflé dans un pull en laine épaisse, les jambes cachées sous une couverture. Elle posa son livre sur sa poitrine en voyant s'approcher Édouard. « Ce que tu lis est triste ?» Elle assumait cette émotion visible et ne chercha en rien à s'en cacher. Il l'embrassa sur le front et s'installa contre elle, faisant semblant de lire par-dessus son épaule. La douceur du contexte et leur solitude manifeste auraient pu générer du désir. Il n'en fut rien. La tendresse suffisait. Entre eux s'instaurait une relation paisible et généreuse qu'un moment d'intimité avait scellée. Elle n'avait pas dîné, l'attendait, soucieuse. Elle aimait la forêt, l'avait apprivoisée. Pour autant, quand la nuit venait s'immiscer entre les troncs et les fougères, Brocéliande redevenait mystérieuse, imprévisible. Lorsque Gaëlle voyait sortir quelqu'un d'entre les troncs anthracites, elle avait l'impression que la forêt l'expulsait comme on vomit un corps étranger. Elle lui proposa de réchauffer quelques restes pendant qu'il se douchait. Édouard se réjouit de cette perspective savoureuse pour finir sa journée. Il ne frotta que les zones essentielles et s'habilla à la hâte. À quelques kilomètres de là, Gauvain pleurait en silence, dans des taillis épais, figé comme une statue scellée dans le béton. Ce qu'il voyait dans la pénombre le terrorisait. Au pied de cette roche tout juste éclairée par un quartier faible de lune. Adèle changea de ton. Mielleuse et aguichante, elle se transforma en furie. D'une voix grave et menaçante, l'homme tenta de hausser le ton, en vain. Les mains liées, le corps contraint par trois tours de corde, aucune tessiture, même virile, ne faisait le poids face à la rage d'une femme. Gauvain, pétrifié, n'osait bouger. Intervenir provoquerait la colère d'Adèle envers lui. Perspective inimaginable. Partir signifiait abandonner l'homme qui semblait voir sa dernière heure arriver. Alors, il resta, sans autre choix, les pieds dans le ciment. Sans comprendre, en témoin bien trop jeune. Fasciné cependant par la violence, prisonnier de ses doigts crochus, petit oisillon dans la main d'une sorcière qui lui susurrait quelques souvenirs passés. L'homme gémissait maintenant, et Gauvain s'essuyait les yeux. Quelque chose lui imposait de ne rien rater de la scène et de tous ses détails. Ceci le transperçait de décharges électriques. Il serait parti chercher de l'aide s'il n'était pas privé de tout discernement par un passé torsionnaire qui refaisait surface. Adèle trancha les liens, enfourcha le cheval blanc et frappa de son pied le dos de l'homme à moitié nu. Il vacilla, vidé de toute énergie. Gauvain s'élança vers le sentier escarpé, le dévala jusqu'à l'arbre d'or et saisit son vélo pour rentrer chez lui. Sa lampe, fixée au guidon, rendit l'âme durant ce retour désordonné et il finit à l'instinct, réunissant ses souvenirs topographiques, convoquant ses sensations physiques pour l'informer du revêtement sur lequel il évoluait. Mollesse de l'herbe et rugosité de la route. À l'entrée gauche du hameau, la lumière à la fenêtre de la cuisine de la vieille Simone, puis le noir sur 50 mètres. La route assez droite jusqu'au four à pain abandonné qui jouxtait la chaussée et s'imposait comme une masse un peu plus sombre que la nuit. À partir de là, le macadam suivait une légère courbe sur la gauche avant de redevenir rectiligne à hauteur de la maison de Raymond, sur sa droite, facilement reconnaissable à la petite bougie sur la fenêtre comme chaque soir. Il restait là alors une 30 mètres avant la cour de la maison. En l'atteignant, il sauta de son vélo, qui finit en roue libre avant de flancher sur l'herbe dans un bruit de sonnette qui agonise, pendant que le garçon pénétrait dans la maison, le souffle court et les yeux écarquillés. Il ne regarda ni Édouard ni sa mère, qui terminaient leur assiette, et que cette entrée fracassante avait fait sursauter. Il s'élança dans le couloir et claqua la porte de sa chambre derrière lui. « Ça recommence », soupira Gaëlle, qui se levait pour le rejoindre avec une lenteur qui criait son désarroi. Édouard lui emboîta le pas sans tergiverser cette fois. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte, offrant à ce minuscule noyau familial, assis sur des draps habitués à la défaite, une distance assez intime pour être consolante. Gaëlle lui lançait à intervalles réguliers un regard désabusé, reconnaissante de sa présence silencieuse. Il scrutait les murs de la chambre de Gauvain, couverts d'affiches et de croquis, de post-it, de photos, de schémas, de textes, n'offrant plus aucune surface libre. Un adolescent intranquille, un esprit vif et désordonné, puissant, mais sans cadre et sans limite. Puis il s'approcha et s'accroupit à hauteur du jeune homme pour essayer d'obtenir des informations. « Tu veux nous dire ce qu'il se passe ?»« Quelqu'un t'a fait du mal ? Te sens-tu en danger ? Tu as vu des choses graves ?» À chaque question, Gauvain accentuait sa position fétale et se tordait les doigts. Édouard retourna à table pour avaler un verre d'eau, réfléchir, laisser la mère et son fils dans leur soupir. Soudain, il aperçut Adèle traverser la cour en direction de l'escalier. Il se précipita dehors en aboyant son prénom. Elle fit semblant de ne pas l'entendre. Il la rattrapa alors qu'elle arrivait sur le palier et la saisit par le bras.
« Tu vas me dire ce qui se passe avec Gauvin, maintenant. À chaque fois qu'il rentre dans cet état, tu arrives peu après. »«
Ça te regarde pas. » »«
Si. C'est pas ton fils. » »«
Non, mais je l'aime beaucoup. Tu lui as fait du mal ?»«
Bien sûr que non. Je sais pas pourquoi il est comme ça. J'étais pas avec lui. »«
Et toi, tu faisais quoi pendant ce temps ?»«
C'est mon problème. »
Elle dégagea son bras d'un geste brusque dont la force surprit Édouard, s'engouffra dans sa chambre et claqua la porte. Elle tourna la clé sans attendre. Édouard resta interdit plusieurs minutes, le nez collé à la surface tiède du bois, le souffle court, submergé par la colère. Il entendait Adèle remuer dans la pièce. Elle marmonnait.
La porte s'ouvrit soudain puis se referma avec la même vigueur quand elle constata qu'il était toujours planté derrière.
« Dégage et fous-moi la paix !»
beugla une voix sourde. Édouard regagna la maison et s'assit dans le gros canapé. Il tendit les bras vers Gaël qui déplaçait quelques objets dans la pièce, sans but précis, hormis celui d'occuper ses mains et une part de son cerveau fatigué. Elle s'installa contre lui comme une souris dans son nid d'herbe sèche, roulée en boule, pour garder la tiédeur rassurante de son ventre de mère et s'envelopper de muscles et de chaleur humaine. Elle posa sa joue sur le torse d'Édouard et ferma les yeux. Résonnait dans son oreille un battement cardiaque lénifiant. Elle se concentra sur ce bruit, s'y accrocha. Tant qu'elle l'entendait, elle était en sécurité. Un cœur qui pulse, c'est la vie qui circule. Comme l'énergie qui jaillissait dans celui de son fils, désordonnée, puissante, dévastatrice. Une fourmilière en panique après un coup de pied.
Tu sais, j'ai toujours eu du mal avec Gauvin. Ses réactions me déstabilisaient. Il réagissait à tout comme si c'était la fin du monde. Je le trouvais tellement sensible, les yeux brillants à chaque contrariété. Mon mari n'avait pas la patience, il ne supportait pas cette sensiblerie, comme il disait. Il s'énervait, ne faisait qu'ajouter de l'émotion au drame. J'ai consulté une psychologue après la mort de son père. Elle lui a fait passer des tests. Quotient intellectuel hors du commun et extrême sensibilité.
Édouard la laissa parler sans l'interrompre. Il lui effleurait l'épaule d'un mouvement lent. Il imaginait l'enfance de Gauvin et le traumatisme qu'avait dû être la mort de son père sous ses yeux si petits. Une mauvaise chute dans les escaliers, lui avait expliqué Gaël. Elle poursuivit, l'oreille toujours collée sur le battement lointain et calme.
J'ai lu des livres, beaucoup de livres. J'ai parlé avec la psychologue, avec d'autres parents. J'ai compris que mon fils était un enfant différent, si différent qu'il fallait que je m'adapte.
En quoi l'est-il ?
Une construction cérébrale particulière. Il a besoin de tout comprendre, de tout expliquer, d'utiliser les bons termes, d'avoir le dernier mot. Parfois on laisse tomber même si on pense avoir raison. Lui, non. L'abandon lui est impossible face à l'approximation. Il est en vigilance permanente. Analyse tous les paramètres, comme si sa vie était une tour de contrôle. Il a une pensée en arborescence, toujours en état de marche, sans savoir comment organiser ses idées. Si certains sont géniaux, tout est désordonné, il fonctionne à l'instinct, à l'intuition. Je l'ai remarqué avec l'automate. Elle lui expliqua la façon dont il pressentait les choses, avec une certitude absolue, sans pouvoir l'expliquer. Le problème que cela posait à l'entourage, toujours en quête d'explication. Qu'il était garçon à tout discuter, tout interpréter, ne pas supporter la frustration, encore moins l'injustice. Et cette quête de vérité, nécessité absolue chez lui. Elle s'inquiétait de ce décalage permanent alors qu'il avait l'illusion que les autres fonctionnaient comme lui. De quoi être perdu. Quant aux émotions, Gauvin ressentait avec beaucoup de finesse l'état émotionnel des autres. Parfois, avant que ceux-ci en aient conscience, il percevait leur fragilité, leur souffrance, leur faiblesse, et était bombardé en permanence par ces signaux, sans pouvoir s'en protéger, sans jamais réussir à déconnecter.
Elle ajouta qu'il était doté d'une sensorialité exacerbée qui le mettait en quête de contacts physiques rassurants. Tout le touchait et souvent le blessait. Absolu et intense dans ses sentiments d'amour ou de haine, une blessure restait ouverte très longtemps. D'un autre côté, il était capable d'un amour, d'une passion pour un adulte dont il ressentait la solidité et la capacité à surmonter ses faiblesses.
« Édouard, je crois qu'il se produit cela avec toi. »
« Je n'ai pas l'impression d'être solide et fort. »«
Tu l'es pourtant. »«
Du moins, dégages-tu cette image ?»«
Il s'est attaché à toi à une vitesse que je ne lui avais jamais connue. »«
Maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi il revient parfois dans cet état. » »«
Nous allons trouver. »« Tu crois que son mutisme est lié à cette hypersensibilité ?»«
Possible mécanisme de défense, m'avait dit la psychologue après l'accident. »
pour se protéger de trop d'émotions.
J'aimerais que tu restes à Doucemain encore un peu.
Je reste encore un peu, Gaël.
Il faut seulement que je me rende à Paris pour chercher quelques affaires et ma voiture.
La petite souris se blottit un peu plus fort contre lui, son tympan en conversation avec le battement. La force rassurante du héros solide. Elles non plus, malgré leur nuit d'amour, n'éprouvait pas de désir. En cet instant, la relation basculait dans une autre dimension, celle cristalline d'un attachement durable, solide, paisible. Édouard, impuissant face à la situation, tout petit en regard du monstre invisible qui s'en prenait à Gauvain, se sentit investi d'un rôle de soldat dans un combat sérieux et grave. La futilité de sa vie d'avant lui apparut avec d'autant plus de contraste. Triste et rasséréné, il prenait la décision juste. Quand Gaël s'endormit, il se dégagea du canapé avec une délicatesse millimétrée, la couvrit d'un plaid avant de monter se glisser sous sa propre couette. Aucun bruit ne parvenait de la chambre de sa voisine, ni du rez-de-chaussée. Le calme apparent masquait un fracas en chacun des occupants de cette maison. En regard des autres, la situation d'Édouard perdait de son drame. Lui revint la description que Gaël avait faite de son fils et qu'il replongea au creux de sa propre enfance. L'hypersensibilité dont il avait souffert, sur laquelle il n'avait jamais posé de mots. Il avait dû appartenir à cette catégorie d'enfants différents qu'on appelait aujourd'hui précoces ou 10 quelque chose. 40 ans plus tôt, ce genre de dépistage n'était pas monnaie courante. Le comportement de cet adolescent le renvoyait à sa propre réalité. Il en fut consolé. Sa différence, ressentie depuis toujours, ne lui apparaissait plus comme une faiblesse mais comme un fait dont il s'était accommodé. Une épreuve attendait Édouard le lendemain, dont il devrait s'accommoder aussi.